Radio Kapi.
Le journal grâce à Mzati.
Au sommaire de ce journal, à l'ouverture, nous faisons le point de la situation à la frontière entre la RDC et le Rwanda dans la ville de Goma. Hier, un homme armé a tiré en direction du Rwanda, créant ainsi une confusion sur les lieux. Lutte contre les mpox en RDC. Une journée scientifique est organisée ce jeudi à Kinshasa par l'Institut National des Recherches Biomédicales en vue de réfléchir sur les mécanismes à prendre pour éradiquer cette maladie. Des précisions sous peu. L'invité du journal, Chérubin Kukundilawa, le vice-coordonnateur de la société civile dans la commune rurale de Mungwalu en Ituri, nous fait notamment l'état des lieux des écoles occupées par les déplacés alors que la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Mesdames et messieurs, bonjour. La situation est redevenue calme ce vendredi à la petite barrière frontalière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans la partie est de la ville de Goma. C'est après un incident déclenché dans la journée d'hier par un homme armé et identifié comme un élément volontaire, Muzalendo, qui a ouvert les feux en direction du territoire rwandais. Ce dernier a été maîtrisé par les forces congolaises de sécurité, mais aucune communication officielle sur l'incident jusqu'à présent. Bernard Denyangi.
C'était autour de 11h locales hier jeudi que ce combattant présumé du groupe de volontaires pour la défense de la patrie VDP Muzalendo, allié des forces congolaises, a ouvert le feu dans la zone neutre près de la petite barrière frontière entre Goma et Gisenyi, provoquant un échange de tirs de quelques minutes avec les forces rwandaises de sécurité. Selon certains témoignages, les éléments des FARDC en poste à la frontière ont vite réagi, maîtrisant et désarmant le combattant avant que la situation ne dégénère. Toutefois, si l'échange de tirs n'a duré qu'une dizaine de minutes, l'incident a perturbé les activités migratoires à la petite et à la grande barrière entre Goma et Gisenyi jusqu'au-delà de 14 heures. Les commerçants ont même fermé dans les zones proches des deux villes frontalières et un mouvement de population fouillant la zone a été rapporté. Jusqu'à présent, l'autorité provinciale à Goma ainsi que les autorités rwandaises n'ont rien communiqué sur l'incident, excepté le fait que certaines sources officielles confirme l'interpellation du combattant et a déclenché l'incident. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Nous en savons un peu plus sur l'incident survenu mercredi 28 août entre une patrouille de la MONUSCO et les rebelles du groupe Codeco. C'était autour du marché de Bali dans la province de l'Ituri. La patrouille de la MONUSCO a été la cible d'une attaque de la part des Codeco autour de Bali, déclenchant un affrontement violent. Un casque bleu a été blessé alors que du côté des assaillants, un a été tué et deux autres blessés. Dans une interview accordée à Radio Kapi ce vendredi à Goma, le porte-parole militaire de la MONUSCO revient sur cet incident. Lieutenant-colonel Kedani Messa au micro de Bernard Denyangi.
Pendant que la force de la MONUSCO se déployait autour du marché de Bali et ses environs, elles ont été attaquées par des tirs d'armes légères de plusieurs éléments de la Codeco. En réponse, elles ont rapidement contré à cette embuscade, obligeant cette dernière à se replier vers l'est sans faire de victimes civiles. Un membre de Codeco a été tué et deux autres ont été blessés au combat. Cependant, il est à déplorer la blessure par balle à la jambe d'un casque bleu. Pour renforcer la présence de la MONUSCO et sécuriser la zone, deux autres hautes patrouilles de contrôle de zone ont été rapidement dépêchées depuis les bases d'armée et Fataki, dont l'objectif est de sécuriser l'ensemble des environs du marché de Bali. Les forces de réserve ont été maintenues en vigilance accrue à l'égard des sites de personnes déplacées dans leur zone d'opération. 4 heures environ après l'affrontement initial, les éléments de la Codeco ont repris les hostilités à partir d'une position nouvellement établie au sommet de la colline près du marché. Après environ 30 minutes de combat intense, les forces de la MONUSCO ont réussi à reprendre le contrôle de cette colline, forçant les éléments de la Codeco à fuir vers le sud.
Santé à présent, le mpox est une maladie qui reste contrôlable. C'est ce qu'affirme le directeur du département de virologie à l'INRB. Le professeur Steve Ahuka l'a dit ce jeudi lors de la journée scientifique à l'Institut National des Recherches Biomédicales ici à Kinshasa. Cet atelier était axé sur le thème de l'évidence actuelle sur le mpox, l'implication de la riposte en RDC. Les chercheurs des différents domaines venus à cette rencontre ont beaucoup appris sur cette maladie. C'est ce que nous dit Étienne Lissoumbou.
Pour la petite histoire, le premier cas de la variole des singes est identifié en RDC à Bassankossou. Devenue de portée internationale, cette épidémie nécessite l'implication de toute la population. Steve Aouka, directeur du département de virologie à l'INRB, invite tout le monde à la vigilance face à cette épidémie.
La population doit comprendre que cette maladie n'est pas comme la Covid, n'est pas Ebola, mais elle reste dangereuse parce que certains de nos compatriotes meurent.
Pierre Akilimali, professeur et représentant du directeur général de l'Institut national des santé publique, pense qu'il est temps de rectifier les tirs pour bien atteindre la population.
Parce que les connaissances que nous avons aujourd'hui renouvelées ou actualisées à travers cette journée scientifique permettra de voir comment rectifier peut-être des tirs par rapport à notre riposte.
Delphine Kachelewa, médecin et membre du MPOIFAR, encourage la population et les institutions médicales à se mettre ensemble pour combattre le Mpox.
Il y a un lien net qui nécessite à ce que le programme et tous les partenaires mettent la main à la pâte pour que au-delà de toutes les pathologies auxquelles on est habitué en RDC, nous puissions juguler.
Signalons que, désormais chaque jeudi, une journée scientifique sera organisée à l'INRB pour sensibiliser la population à cette épidémie de Mpox.
Sachez aussi que le gouvernement consolide les stratégies pour maîtriser les circuits de dématérialisation des documents et procédures des exportations et importations, et ce, à travers le guichet unique du commerce extérieur, Ségus. Objectif, en finir avec les tracasseries dont les opérateurs économiques sont victimes en RDC. L'évaluation des réformes est déjà engagée par l'État congolais avec des réalisations et des obstacles, mais aussi des perspectives, a été au centre de la première réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce tenu hier jeudi à Kinshasa. Y ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre du commerce extérieur, le vice-ministre des finances et celui du budget, ainsi que les animateurs des structures techniques dont l'Office congolais des contrôles OCC, la Direction générale des douanes et assises, DGDA, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM et le guichet unique du commerce extérieur Ségus. On écoute Julien Paloukou, ministre du commerce extérieur, dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
À tous les opérateurs économiques, à tous les peuples congolais, la volonté du gouvernement, c'est de dématérialiser les documents et les procédures pour que tout celui qui veut être importateur ou exportateur ne soit pas exposé à des tracasseries parce que simplement il a respecté la procédure requise. Ainsi, la douane, par exemple, ne devra plus traiter un document ou un dossier qui n'est pas passé par la procédure du guichet unique. Parce que si une marchandise ne passe pas par le guichet unique, comment devra-t-elle être alors dédouanée, étant donné qu'on n'a pas les renseignements sur son lieu d'embarcation? Parce que si on n'a pas les renseignements sur le lieu d'embarcation, eh bien, on peut se poser la question sur le contenu de cette marchandise. Et donc, pour éviter le cas de ce qui s'est passé en Zambie, nous devons tous revenir sur le guichet unique du commerce extérieur qui est l'outil du gouvernement nous permettant de maîtriser tous les circuits d'importation et d'exportation.
Parlons de la pose de la première pierre pour la construction d'une école supérieure des métiers des mines, une première pour l'Afrique par le vice-ministre des mines lors de sa mission dans le Grand Katanga. Godard Motemona a séjourné du 17 au 22 août dernier dans le Lualaba et au Katanga pour une mission inaugurale de plusieurs infrastructures dans les domaines des mines. Les détails avec Blaise Shindani Kambala.
Arrivé à Lubumbashi, Godard Motemona était accueilli par une délégation conduite par le chef de la division provinciale des mines, Honoré Kabange Numbi, et il a inauguré les infrastructures communautaires financées grâce à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières au bénéfice des communautés locales impactées par l'exploitation minière. À Lupotorai, dans le territoire de Kipushi, accompagné du ministre provincial des mines du Haut-Katanga, Lucien Lumano, le vice-ministre des mines a coupé les rubans du nouveau centre de santé construit par la dotation Soumika, améliorant les services médicaux locaux. Dans le Lualaba, après avoir été reçu par la gouverneure des provinces Fifi Masuka Saini, il a inauguré plusieurs établissements dans les secteurs de Lukanda, dont les écoles primaires Shindaika et Kembo 1, l'institut Kembo 2 et un centre culturel à Kikisha. Avec le ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Munana, Godard Motemona a posé la première pierre pour une école supérieure des métiers des mines, une première en Afrique. C'était l'occasion pour le vice-ministre des Mines de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi qui a rendu possible toutes ces réalisations au profit de la population du Grand Katanga.
Autre nouvelle, la synergie des syndicats des enseignants du Sud qui vous dit ne pas être disposé à reprendre le chemin de l'école lundi 2 septembre prochain. La décision a été prise ce jeudi au cours de l'Assemblée générale ayant regroupé les trois principaux syndicats, à savoir SIECO, SINECAT et SINEP. Le rapporteur Marcelin Kimbumbu, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
La synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu s'est réunie ce jeudi 29 août 2024 afin de suivre la restitution des conclusions des assises de la commission paritaire tenue récemment à Bibwa, à Kinshasa. Après restitution, les enseignants ont pris la décision suivante. Vu que les enseignants ne sont plus prêts à accepter les promesses irréalisables du gouvernement, à l'unanimité, les enseignants décident de rester à la maison jusqu'à ce que les engagements du gouvernement soient matérialisés, tout en exigeant l'amélioration de leur salaire. Pour les volets retraite, les enseignants soutiennent les engagements du gouvernement, notamment à apurer les litiges des enseignants de 2021-2022, dont l'effectif est estimé à 3 070. Payer les allocations de fin de carrière des enseignants retraités depuis 1984. S'agissant de la santé, les enseignants du Sud Kivu exigent la subvention de l'État à la mutuelle de santé des enseignants du Sud Kivu.
Même situation au Congo central. L'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle du Congo central 1 refuse de reprendre les chemins de l'école ce lundi, comme annoncé par le gouvernement. Cette structure conditionne la rentrée scolaire effective par l'application sans faille du barème salarial fixé par le feu président Mobutu dans une ordonnance non abrogée jusqu'à présent. Cette décision vient d'être annoncée à l'issue d'une assemblée générale tenue ce jeudi à Matadi. La Confédération des syndicats des enseignants du Congo central dit exprimer son mécontentement face aux nombreuses promesses non tenues par le gouvernement. Le point avec Nana Purichimambo.
À travers ces chants, l'intersyndicale des enseignants du Congo central 1 désapprouve les réajustements des salaires en paye complémentaire de 50 000 francs avant la rentrée scolaire et 50 000 autres en octobre, y compris les 20 000 francs de la prime des enseignants du primaire, tel qu'a été récemment conclu en Bouela Lodge entre le gouvernement et les bancs syndicales. Cette structure conditionne la rentrée scolaire de ce 2 septembre par un salaire de 500 $. Joël Ngimbi est président de l'intersyndicale des enseignants du Congo central 1.
Donc nous sommes catégoriques pour dire 500 $ ou rien, ou pas de rentrée.
Pendant la période que durera ce mouvement de grève, l'intersyndicale des enseignants met en garde les gestionnaires des écoles et les autorités éducationnelles contre leurs intimidations à l'endroit des enseignants.
Nous leur demandons de laisser libre les enseignants. Et celui qui a l'intention d'intimider les enseignants, il verra toute l'équipe de l'intersyndicale devant ses bureaux.
Cette assemblée générale convoquée par l'intersyndicale provinciale a réuni les enseignants et les responsables des syndicats tels que les SINECAT, les SINECO ainsi que les SILAD. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, l'archidiocèse de Kisangani organise demain samedi une soirée missionnaire des galas. Il sera question de récolter des fonds afin de les envoyer à Rome, selon les instructions du Vatican, pour des fins philanthropiques. Le gouverneur des provinces, par intérim, en a été informé hier par Monseigneur Léonard Njadi Njati, évêque auxiliaire de Kisangani. Concrètement, à quoi serviront ces fonds et comment cette soirée sera-t-elle organisée? L'évêque auxiliaire de Kisangani, Monseigneur Léonard Njadi Njati, explique dans ses propos recueillis par Jacques Mukonkole.
Il s'agit d'une soirée où on va présenter aux invités les œuvres pontificales missionnaires. C'est quoi? Ce sont des organes dont le pape se sert pour pouvoir atteindre le monde entier, les diocèses, les communautés, particulièrement celles qui sont en détresse. Dans cette soirée, nous allons organiser de telle sorte que les invités puissent contribuer. Nous allons récolter des fonds pour les OPEM, les œuvres pontificales missionnaires qui seront envoyées à Rome. Et là, on mettra ensemble avec ce que les autres pays, les autres diocèses du monde ont envoyé afin de pouvoir aider maintenant dans le monde les communautés qui sont en souffrance à travers les écoles, les hôpitaux, les paroisses, les presbytères, ainsi de suite. D'habitude, nous le faisons seulement au niveau des paroisses. Mais on a découvert que le pape François, son message est reçu aussi par les non-catholiques. Voilà pourquoi nous avons voulu pour la première fois l'organiser au Congo Palace et inviter et les catholiques et les non-catholiques.
Actualité internationale.
Ce vendredi 30 août est la journée nationale de la libération au Gabon où la transition est à mi-chemin. Il y a un an tout juste, les militaires menés par les chefs de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, renversaient Ali Bongo dans la foulée de l'annonce de sa réélection après un scrutin très contesté. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile ont rejoint les institutions en vue d'organiser ces élections prévues au plus tard en août 2025.
L'invité.
C'est Chérubin Koukou Ndilawa. Il est vice-coordonnateur de la société civile dans la commune rurale de Mungwalu, à 85 km de la ville de Bunia, territoire de Djougouanitouri. Il déplore le fait qu'à quelques jours de la reprise des cours, de nombreux déplacés occupent encore des salles de classe de certaines écoles, mais aussi de la situation humanitaire et sécuritaire préoccupante qui risque d'entraver les activités scolaires qui débutent ce lundi 2 septembre. Chérubin Koukou Ndilawa s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur Chérubin Koukou Ndilawa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
À quelques jours de la rentrée scolaire, quel est l'état des préparatifs dans des écoles à Mungwalu et sa périphérie?
Vraiment, les préparatifs sont presque un peu timides. La fréquentation des parents est vraiment timide pour inscrire les enfants. Dans certaines écoles que j'ai essayé de fréquenter, nous avons trouvé il y a des écoles où on a inscrit que dans des cinquantaines d'élèves, alors que les inscriptions venaient de durer plus de 2 semaines. Et dans d'autres écoles, le mouvement qui a été un peu fréquent, le parent qui a essayé de fréquenter, c'était juste pour retirer les dossiers et les dossiers de leurs enfants et aller inscrire les enfants en dehors de la commune de Mungwalu. Voilà au moins ce que nous avons pu constater. Et autre chose que nous avons constaté, il y a des écoles qui fonctionnent à déplacement dans la commune rurale de Mungwalu, dont notamment le cas de Epe Kombo Kombo de Lodjo, Epe Andisa qui fonctionne dans la commune de Mungwalu depuis l'année scolaire 2021-2022. Il y a Epe Beba qui a fermé complètement sa porte.
Quand vous parlez des écoles qui vont fonctionner en déplacement et d'autres qui n'existent plus, comment se comportent les gestionnaires de ces écoles?
Les responsables de ces écoles sont vraiment dans l'inquiétude. Le camp, par exemple, de Epe Beba qui a complètement fermé. Or, c'était une école déjà mécanisée et le cas de aussi de Epe Kombo Kombo de Lodjo, école mécanisée. Le responsable, il me dit avoir inscrit 50 élèves jusqu'à présent, alors que dans 3 jours, c'est la rentrée ou dans 5 jours. Le nombre d'élèves qu'il reçoit par rapport au personnel qu'il a, il est en train de regretter qu'il risque même de ne pas organiser certaines classes, vu le nombre des enfants qu'il est en train de recevoir. Et ils expriment vraiment un sentiment de désolation. Et leur souhait, ce serait de retourner fonctionner dans leur milieu habituel, mais ils sont contraints à l'activisme des groupes armés, ce qui les a aussi contraints de quitter leur milieu habituel.
La région minière de Mungwalu connaît une situation humanitaire et sécuritaire très préoccupante. Cette situation n'affecte-t-elle pas les préparatifs de la rentrée scolaire?
Bien sûr que oui, d'autant plus que nous avons le cas échéant, l'école primaire EP3 Mungwalu, certaines de ces salles de classe a servi pour héberger des déplacés, mais aussi le centre de jeunes où l'EP Kombo Kombo va fonctionner a hébergé aussi dans certaines salles de déplacés. Et maintenant qu'il y aura rentrée, on ne sait pas comment il y aura cohabitation entre ces déplacés ainsi que les élèves. C'est ce qui pose un peu problème.
À ce jour, la région compte combien de déplacés et quelle lecture faites-vous de l'accroissement des besoins humanitaires face aux exigences d'une rentrée des classes apaisée et sécurisée dans la commune rurale de Mungwalu?
Aux dernières statistiques qui nous ont été balancées par le président qui coordonne au moins les activités des déplacés dans la commune, on avait plus de 2400 ménages qui étaient déplacés et dans le plus de 2400 ménages déplacés, ce qui fait au moins un total de 14 843 personnes, parmi lesquelles on a au moins 7281 enfants. Alors, vous trouvez qu'avec ces statistiques de plus de 7781 enfants, c'est quand même une statistique qui devrait faire l'attention des humanitaires. Nous ne pouvons pas arrêter de lancer des cris d'alarme, mais nous comptons aussi faire des plaidoyers du côté des humanitaires qu'ils pensent aussi à orienter leurs activités de l'autre côté, étant donné que nous, la zone minière fait aussi partie du territoire de Djougou et qui connaît aussi des urgences qui ont besoin d'être couvertes.
Dans ces conditions, comment rassurer les parents d'une reprise des cours apaisée, surtout que la menace des groupes armés est encore perceptible dans la périphérie de Mungwalu, notamment à Lodjo, Galaï et Plito, dans les secteurs de Banyalikilo?
Tout ce que nous pouvons dire, nous allons d'abord appeler la population qui est dans la commune ainsi que dans la périphérie de faire d'abord confiance à l'armée. Et tout ce que nous pouvons aussi ajouter, c'est que ces miliciens ont aussi des enfants et leurs enfants ont aussi droit à l'éducation. c'est qu'ils ont intérêt de rentrer dans l'esprit des actes d'engagement qu'ils ont eu à signer et de cesser avec les hostilités et permettre à ce que chacun puisse vaquer librement à ses activités que de priver ses enfants innocents qui sont ceux-là qui vont nous remplacer demain dans différentes activités, de les priver de leur droit fondamental qui est l'éducation.
Monsieur Chérubin Kukundilawa, vous êtes le vice-coordonnateur de la société civile de Mongwalu. Je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Notre invité était interrogé par Ezekiel Mouzalia. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rongmouchinge. Pierre Diassino a assuré la mise en onde et grâce à Mzati était à la présentation. Merci de l'avoir écouté.